Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc c'est Amnesty International pour son émission du mardi 26 novembre, puisqu'on est, alors on n'est pas tout à fait, je vais vous expliquer pourquoi, mais on est le mardi 26 novembre aujourd'hui. Donc comme on est également nous présents ce soir au théâtre pour le spectacle Longtemps je me suis levé tôt en collaboration avec Le Temps Grave au théâtre Le Gendre, et qu'on ne peut pas se couper en deux,
on a enregistré
en fait très exceptionnellement notre émission, donc la veille, le lundi 25.
Alors, donc en vrai, on est le 25, mais vous écoutez le 26.
Alors
on va s'embrouiller là.
On vous dit bonjour et bonsoir à la fois.
C'est ça.
Je crois que c'est pas mal.
Donc pour animer l'émission avec moi ce soir, il y a Edith.
Bonjour.
Et il y a Claire-Lise.
Bonjour.
Voilà. Donc notre émission va être consacrée en grande partie sur notre grande campagne annuelle. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, ils sont déjà au courant de notre grande campagne annuelle qui s'appelait jusqu'à présent 10 jours pour signer, grande mobilisation mondiale de défense des droits humains autour de 10 cas, enfin 9 cas cette année d'atteinte aux droits humains. Mais le nom a changé. Amnesty France a décidé d'appeler effectivement cette campagne maintenant « Changer leur vie ». Donc c'est la campagne « Changer leur vie ». Voilà. Donc on va vous parler de ces 9 cas un peu plus en détail.
9 personnes. Cas, c'est pas beau.
9 personnes, voilà. 9 cas de victimes d'atteinte aux droits humains, pour être tout à fait précis.
Gardons l'humain voilà. En premier.
En vous incitant de signer les pétitions sur le site d'amnesty.fr, mais aussi avec nous, notre groupe, on va vous en parler plus tard dans l'émission. On va vous parler aussi de migrants qui meurent, qui continuent à mourir en Manche. C'est Claire-Lise qui va vous en parler. Également de l'inculpation de...
L'inculpation de
Netanyahou, le Premier ministre israélien, par la Cour pénale internationale. Donc ne quittez pas l'antenne jusqu'à ce soir, 20h, comme deux fois par mois sur l'antenne de Principe Actif. Voilà. Donc... comme on vous a dit qu'on est mardi soir, mais que l'émission est enregistrée la veille, le lundi, c'est aujourd'hui la journée pour les droits des femmes et contre les violences faites aux femmes, mais c'est Claire-Lise qui va vous en parler.
Alors on espère que vous avez
voilà.
été nombreux.
Donc, pour vous embrouiller un petit peu, vous écoutez mardi, mais nous on vous parle le lundi 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes. Donc, et ça a lieu tous les ans le 25 novembre. Et ce 25 novembre, à Évreux, il y a un rassemblement à l'appel de l'association Nous Toutes, hein, qui a lieu donc à 18h, place de la mairie, entre 18 et 20h, et auquel nous allons participer. Donc, tous les collectifs, les associations féministes, pour manifester ensemble contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, le mouvement MeToo a profondément bouleversé nos sociétés. Ces dernières années, des millions de femmes, mais aussi de filles, de garçons et de personnes LGBT ont pris la parole pour dénoncer publiquement l'ampleur des violences sexistes et sexuelles. Même si la parole semble se libérer, les voix des victimes ne sont pas nécessairement entendues et les réponses politiques ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Pourtant, les chiffres provenant des enquêtes diverses en France sont consternants. Ces violences touchent les femmes, les filles et les minorités de genre de manière disproportionnée. On parle alors de violences basées sur le genre. 9 femmes sur 10 déclarent avoir subi déjà une situation sexiste. 82% des femmes décédées à la suite de violences conjugales sont des personnes décédées à la suite de violences conjugales sont des femmes. Et 99% des auteurs condamnés pour des affaires de violences sexuelles en 2022, sont des hommes. Donc le constat est là, le sexisme et les violences qui en découlent sont loin d'être de l'histoire ancienne. Le sexisme se manifeste tous les jours dans les rues, le transport, au travail, à l'école, à la maison, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Et bien que la population se dise de plus en plus consciente que ces violences, de ces violences et assure les tolérer de moins en moins, les enquêtes le prouvent, les violences sexuelles ne reculent pas. Juste une petite parenthèse, suite à l'élection de Donald Trump, à la réélection de Donald Trump aux États-Unis, on a vu
des bonnes nouvelles.
Il y a de grandes inquiétudes par rapport au recul des droits des femmes et des suprématistes misogynes s'en donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux, sont totalement décomplexés. Ils ont inversé, donc c'est un influenceur masculiniste qui est un commentateur d'extrême droite et un ancien YouTuber qui s'appelle Nick Fuentes, qui a inversé le slogan de MeToo et qui a fait paraître, enfin, sur les réseaux sociaux, un message « Salut les garces, on contrôle vos corps, c'est ton corps, mon choix ». Et ça a fait le tour de tous les réseaux sociaux et ils s'en donnent à cœur joie. Donc, la justice, ce soit en France, dans le monde, ça va être de plus en plus compliqué. 6% des victimes de viol, tentatives de viol ou agressions sexuelles subies ont porté plainte en 2021. 0,6% des viols ou tentatives de viol auraient donné lieu à une condamnation en 2020. 86% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite entre 2012 et 2021. Ça, c'est des chiffres qu'on avait déjà dit.
On en avait parlé parce que
Edith était très, très étonnée du 0,6.
On a envie d'aller vérifier en disant, mais c'est pas possible, attends, ça doit être un peu plus.
Que... Et donc, on voulait vous inviter par rapport à ça à signer une pétition qui est sur le site d'Amnesty. C'est exiger l'accès à la justice pour toutes les femmes victimes de violences sexuelles en France. Donc, accéder à la justice lorsqu'on est victime de violences, ça reste un véritable parcours de combat. Mais pour les personnes victimes de discriminations multiples, cela relève quasiment de l'impossible. Lorsqu'elles poussent les portes d'un commissariat, elles subissent souvent une nouvelle forme de violence, celle des institutions censées les protéger. Refus de plainte, menace d'expulsion du territoire, absence de traduction, attitude transphobe et propos stigmatisants sont des réalités qui découragent et isolent de nombreuses femmes étrangères, transgenres, travailleuses du sexe et d'autres personnes marginalisées. Donc comment espérer obtenir justice quand il existe tant d'obstacles à l'étape cruciale qu'est le dépôt de plainte ? Eh bien, en fait, ce qu'on demande, nous, c'est d'adopter une approche intersectorielle qui prend en compte l'ensemble des discriminations subies dans toutes les politiques menées contre les violences sexuelles et sexistes. Donc nous demandons au Premier ministre d'adopter cette approche intersectorielle, et ce, afin de répondre aux réalités spécifiques des femmes marginalisées et de garantir leurs droits, de mettre fin aux pratiques illégales dans les commissariats et gendarmeries lors du dépôt de plainte, de lever les obstacles législatifs et de modifier les lois existantes qui entravent l'accès à la justice pour les victimes, introduire la notion de consentement dans la loi pénale sur le viol, dépénaliser le travail du sexe et garantir un droit au séjour pour les femmes étrangères durant leur démarche judiciaire. Ensemble, exigeons une justice qui respecte et protège les droits de toutes les victimes de violences sexuelles. Donc là, quand on enregistre, il est 15h, j'ai pas eu le temps d'aller regarder sur Internet, mais normalement, il doit y avoir des annonces faites par le ministère aujourd'hui, 25 novembre, journée...
Ce qu'il y a déjà, moi, ce qu'on a entendu, c'est effectivement que les femmes qui passent par les services médicaux d'urgence ou de gynécologique vont...
Proposition,
ouais. Voilà, oui. Voilà, mais il va y avoir, logiquement, il va y avoir les gens qui vont pouvoir aller voir si elles veulent porter plainte, enfin, aider à la porter...
Au lieu
que ce soit elles qui doivent faire une manœuvre après. Bon. On va voir un peu, on va surveiller un peu toutes les propositions.
Tout ça, c'est une question de moyens, parce que c'est des
bonnes idées. Après, c'est moyen, comme tu dis, les idées sont bonnes, mais pourvu que ça...
Donc voilà, manif 25 novembre à Évreux.
On espère vous rencontrer ce soir pour en parler demain.
Voilà, quand vous écouterez l'émission, on sera le lendemain.
C'est ça. Et juste un petit commentaire, je l'ai déjà fait au micro de Principe Actif, mais je le redirai. Ce que tu as lu, Clarlisse, tout à l'heure, ce communiqué, enfin, cette publication là sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux.
Sur sur ce propos absolument ignoble de cet Américain dont j'ai oublié le nom, mais peu importe.
Fuentes,
c'est pas la même chose, il faut mieux l'oublier.
Par rapport aux femmes, je veux dire, moi c'est ce que je redis à
ça
chaque fois, ce genre de propos de mâle imbécile, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, c'est quelque chose qui, moi, en tant qu'homme, continue à me salir. Donc voilà, moi je me sens sali aussi quand il y a un homme, effectivement, qui se permet ce genre de commentaires débiles et ignobles. Voilà. Donc, les droits des femmes, effectivement, à disposer de leur corps, c'est un droit fondamental, comme ça s'applique aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc voilà. Je reprends le conducteur parce que je ne sais plus du tout où on en est maintenant.
Est-ce qu'on pourrait introduire
On va entamer
la campagne
donc changer leur vie, ex 10 jours pour signer et pour
vous, c'est pas grave, tu leur dis
pour vous la présenter, on vous passe tout de suite un petit audio.
Recherche personne de tous âges, de tous horizons, de toute religion ou sans religion. Recherche personne de toutes les régions. Au-delà des frontières, qu'importe la couleur, l'accent. Recherche les idéalistes, les pragmatiques, des êtres humains empreints d'humanité. Pour crier l'espoir et changer l'histoire. Pour défendre les personnes qui se battent pour nos droits. Pour soutenir celles qui payent le simple fait d'être qui elles sont. Pour amplifier les voix que l'on veut faire taire. Pour obtenir justice et libérer les Yasaman, les Bernardo, les Idil de ce monde. Pour changer leur histoire. Signé.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour effectivement la suite de son émission qui sera consacrée en grande partie maintenant pour cette campagne Sauver leur vie, grande mobilisation mondiale et annuelle. Mais je crois que quelques bonnes nouvelles à vous donner.
Bon, si vous êtes à nous écouter régulièrement, vous savez que tous les ans on vous parle de ces personnes pour qui, dans une durée une quinzaine de jours, on souhaite avoir un maximum de signatures pour justement avoir une amélioration pour leur sort. Alors, avant de vous présenter les cas pour lesquels on va vous demander de signer cette année, moi, je vais faire un tout petit récapitul de l'année dernière pour déjà vous féliciter, parce que je suis sûre qu'entre les gens, les auditeurs qui nous écoutent, nombreux sont ceux qui ont signé les pétitions ou en nous rencontrant ou sur le site Internet. Alors, rien qu'en France, il y a eu plus de 700 000 personnes qui ont signé les pétitions en faveur de ces personnes en danger. Et dans le monde entier, plus de 5,8 millions d'actions ont été menées pour défendre les 10 personnes pour lesquelles qui avaient été choisies en 2023. Alors, je vais rapidement vous donner et des bonnes nouvelles et quelques paroles par rapport à certains qui... je suis désolée, je repasse. Voilà, ça y est, c'est bon. Mon téléphone avait un petit blanc. Donc, par rapport à certaines personnes qui ont été libérées ou ont eu des améliorations. Alors, je commence par Rita Karasartova, qui risquait 15 ans de prison pour avoir manifesté pacifiquement au Kirghizistan. Alors, elle, effectivement, elle a été acquittée le 14 juin 2024, une nouvelle qui a été accueillie avec beaucoup d'émotion, car elle montre toute la force de la mobilisation internationale. Bon, elle était accusée d'avoir cherché à renverser le gouvernement par la force, simplement parce qu'elle voulait avoir un meilleur accès à l'eau entre le Kirghizistan et l'Ouzbékistan. Donc vous voyez un petit peu ce que c'était. Donc ce qu'elle témoigne, en disant « Je tiens à exprimer mon immense gratitude. Vos signatures de la pétition et le grand nombre de lettres qui sont arrivées jusqu'au bureau du procureur ont eu un impact très puissant. Cela nous a donné une force énorme. Bien sûr, l'acquittement était totalement inattendu. Dans notre tête, nous avions ressassé toutes sortes de scénarios avec des issues différentes. Mais jamais nous n'aurions pensé que nous serions tous et toutes acquittés. » Alors, il y a aussi le jeune, si vous vous rappelez, qui demandait à ce que Meta verse des réparations aux Rohingyas en disant que c'était aussi la faute des réseaux sociaux et de l'algorithme qui avait fait ces massacres des Rohingyas en Birmanie. Alors lui, il a continué à manifester, mais en 2023, la sécurité du Sayedo One a été... grandement menacé dans les camps de réfugiés. Donc, avec les partenaires victimes, avocates internationales et DVT, TV, nous avons mobilisé des ressources en vue de garantir la sécurité de Sayoud Olam. En août 2024, il a obtenu un visa étudiant et s'est installé aux États-Unis. Il est désormais inscrit à l'Université de New York en tant qu'étudiant étranger. Et alors lui, ce qu'il dit, c'est l'impact de la campagne ne s'est pas limité à élever ma voix, mais aussi à créer une solidarité qui a résonné au-delà des frontières. Alors un dernier petit témoignage, donc c'est Tunisie. Shaïma Issak était persécutée pour son engagement politique en Tunisie. Alors elle aussi a été libérée en juillet, après plus de 4 mois de détention arbitraire. Et on va continuer à suivre quand même sa situation, car elle pourrait encore avoir... elle a été poursuivie pour conspiration et il pourrait y avoir encore des jugements. Alors, est-ce qu'elle dit « Quand je reçois les lettres du Canada, du Japon ou du Maroc, je sens que les personnes qui m'écrivent sont dans l'empathie, qu'elles ressentent notre souffrance. La confiance et l'espoir que je puise dans ces lettres me donnent la force de continuer. » Je retrouve une forme d'espoir en l'être humain. La campagne d'Amnesty m'a permis de vivre cette unité universelle, mais elle a aussi eu un impact divers, direct sur moi en me donnant beaucoup de courage. Voilà, donc il y a d'autres témoignages. Allez voir l'article sur le site d'Amnesty. Mais c'est pour vous montrer un peu ce que disait le petit clip avant. C'est même si ce n'est qu'une signature, une plus une plus une, ça peut vraiment bouger les choses pour les gens. Ou pour leur entourage, ou pour faire connaître dans le pays ces situations, ou à l'étranger. Il y a toujours un impact, n'hésitez pas.
Oui, alors juste par rapport à ce que tu viens de dire, Edith, petite précision pour ceux qui ne sont pas au courant, quand tu as parlé de Meta, c'est la maison mère
Meta,
de
oui,
Facebook.
Meta, oui, tout à fait. Oh, donc, voilà. Mais ils sont tous...
Oui, oui, bah, les auditeurs sont déjà au courant,
carrément.
Mais quand même. Et puis donc pour rappeler effectivement les mobilisations... autour de la campagne 10 jours pour signer, donc changer leur vie maintenant. Il y a eu l'année dernière près de 6 millions d'actions faites à travers le monde. Donc effectivement,
je l'ai
c'est ce
dit,
qui fait
Didier.
La différence.
Il faut toujours
le rappeler.
5 millions 800.
C'est ça.
Mille.
Donc voilà, mais il faut toujours le rappeler. On va vous citer les cas de cette année, mais juste avant, on va passer la première pause musicale.
What are you saying? Don't wanna try again. Give it another shot, another chance. You want to never make amends. You want to never wonder. But see, I'm already on my way. I'm taking over. Don't wanna feel the pain. You want things to never change. The storyline is so tight, filled with crumbling icons. All that we once admired won't see another dawn.
I was always gonna leave. always gonna leave anyway.
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite de son émission sur la défense et les droits humains et notre grande campagne « Changer leur vie ». On vient d'écouter Jeanne Haddad dans un morceau qui s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, qui s'appelle « Another Place ». Alors c'est une Française, même si elle chante en anglais, et j'ai choisi ce morceau, c'était un petit clin d'œil à nos amis du Tangram, parce qu'elle est venue en concert à Évreux à l'invitation du Tangram au mois d'octobre ou fin septembre, je ne suis pas sûr de la date, mais il n'y a pas très longtemps, voilà. Donc, changer leur vie, c'est une des fonctions d'Amnesty International. Et on va commencer à vous parler des 9 cas pour lesquels on se bat cette année.
Des 9 personnes pour lesquelles on se bat cette année.
Des 9 défenseurs.
Et donc la première, c'est une très jeune femme. Elle s'appelle Manael Al-Outaibi. Elle vit en Arabie Saoudite et elle est emprisonnée pour avoir défendu les droits des femmes. Donc Manael est instructrice de fitness, défenseur des droits humains et blogueuse de 29 ans. Elle a été condamnée à 11 ans de prison en raison de ses choix vestimentaires et de son soutien aux droits des femmes. Je vous dis bien 11 ans de prison. Elle a été condamnée lors d'une audience secrète par le tribunal antiterroriste, le tribunal pénal spécial, donc le 9 janvier 2024. Victime de disparition forcée, de novembre 2023 à avril 2024, elle a été depuis détenue à l'isolement, torturée et battue jusqu'à avoir une jambe cassée. Amnesty International demande la libération immédiate et sans condition de Manael Al-Outaibi et à ce qu'elle bénéficie d'un accès immédiat à des soins médicaux et qu'elle soit détenue dans des conditions conformes aux normes internationales. Donc 11 ans de prison en raison de soutien aux droits des femmes et en raison des choix vestimentaires. En France, des violeurs, ils prennent moins que ça. Voilà, oui, entre
oui,
autres.
Oui, tout à fait. Alors, deuxième cas sur lequel on se mobilise, il s'agit de Net Nahara, en Angola. Elle a été condamnée à 2 ans d'emprisonnement pour avoir critiqué le président sur TikTok. Ana da Silva Miguel, connue sur TikTok sous le nom de Net Nahara, est une influenceuse qui se sert des réseaux sociaux pour commenter les sujets d'actualité en Angola. En août 2023, elle est arrêtée, puis jugée sommairement et condamnée à 6 mois de prison pour outrage à l'État, à ses symboles et à ses organes, pour la diffusion d'une vidéo sur son compte TikTok le 12 août 2023, dans laquelle elle critiquait le gouvernement et le président João Lourenço. Le 27 septembre 2023, sa peine de prison a été alourdie, passant de 6 mois à 2 ans. Net est séropositive. Depuis son arrestation, elle n'a pas reçu les médicaments qu'elle doit prendre quotidiennement. Cela nuit gravement à sa santé et met sa vie en grand danger. Donc Amnesty International demande la libération immédiate et sans condition de Net Nahara. Voilà, c'est le deuxième cas. Et j'ajouterai que le fait qu'elle soit en prison sans bénéficier du traitement dont elle a besoin, c'est aussi une forme de torture qui est très fréquemment utilisée par ceux qui ne respectent pas les droits fondamentaux. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Donc, mobilisons-nous pour elle.
Alors, eh bien moi je vais vous parler de la nation Wet'suwet'en. Certains vont dire, mais on en a déjà entendu pendant cette année, voire même l'année dernière, parce que c'était déjà la nation qui avait été choisie pour les 10 jours pour signer, pour changer leur histoire, enfin pour ce moment intense de pétition pour les personnes. Donc on est au Canada. Alors le Canada qui se vante d'être une nation qui défend les droits à l'international, mais pour les terres ancestrales de la nation Wet'suwet'en, eh ben c'est pas du tout ça. Ce sont les défenseurs des terres Wet'suwet'en qui se battent pour protéger leur territoire et leur site sacré contre la construction d'un gazoduc sur leur terre non cédée en Colombie-Britannique. La construction de ce gazoduc a été lancée sans le consentement libre et éclairé des chefs héréditaires, qui ont été tenus à l'écart de toute consultation respectueuse des normes internationales relatives aux droits humains. Les défenseurs et défenseuses des terres autochtones qui s'opposent à la construction du gazoduc font l'objet de mesures de surveillance, d'intimidation et de criminalisation. Ça, c'est la nouveauté de cette année. Il y a eu des arrestations de chefs. Et en juillet 2022, le procureur général de la Colombie-Britannique avait inculpé 20 défenseurs des droits fonciers pour outrage criminel, ces derniers ayant ignoré l'ordonnance judiciaire leur imposant de rester à distance des sites de construction du gazoduc. Et depuis, il y a eu aussi des jugements, il y a eu le chef qui a été emprisonné. Donc la situation ne s'améliore pas, loin de là. Donc on appelle les autorités canadiennes à stopper la criminalisation des Wet'suwet'en et à abandonner les poursuites engagées à leur encontre. Là aussi, défendre sa terre, défendre le pays, c'est quand même compliqué. Et on est au Canada.
C'est ça, c'est un pays qui n'est pourtant pas réputé pour opprimer vraiment les droits humains, mais on voit qu'aucun...
Ah ben là, il se montre bien...
Aucun État n'échappe au travail d'Amnesty. Donc, on va faire une petite pause parmi ces cas, on va vous lire, vous parler des trois cas suivants tout à l'heure, mais il y avait Claire Lys qui avait quelques mots à vous dire par rapport aux migrants et aux morts des migrants en Manche.
Oui. Alors, combien de morts faudra-t-il dans la Manche avant que les États français et britanniques ne prennent leurs responsabilités ? Donc le 24 novembre 2021, vous vous en souvenez peut-être, la Manche engloutissait 27 vies humaines dans le naufrage le plus meurtrier qu'a connu cette mer, devenue le symbole d'une crise ignorée. Si ce naufrage reste celui qui a fait le plus grand nombre de victimes, l'année 2024 a battu un triste record. Depuis le début de l'année, ce sont au moins 70 personnes qui ont perdu la vie ou sont disparues en tentant la traversée de la Manche. Les morts ne cessent pas. Pire, leur nombre se multiplie. Donc notre tribune est publiée dans la tribune aux côtés de 15 autres organisations. Cette année, Rola, une fillette de 7 ans, est morte noyée dans un canal sous les yeux de ses parents et de ses grands frères sans avoir même atteint la Manche. Mariam, un bébé de 4 mois, est morte noyée. Mansour, un enfant de 2 ans, est mort asphyxié. Des dizaines d'enfants, de femmes et d'hommes sont décédés à la frontière franco-britannique après avoir fui les conflits, la pauvreté, la persécution ou simplement parce qu'ils poursuivaient l'espoir d'une vie meilleure sur les rives anglaises. Il y a peu, Bruno Retailleau, fraîchement nommé ministre de l'Intérieur, portait l'indécence à son comble à l'occasion d'une rencontre avec son homologue britannique en qualifiant les décès survenus au cours des semaines précédentes de conséquences néfastes de l'efficacité des forces de l'ordre. Ces morts ne sont ni le fruit du hasard, ni un simple dommage collatéral. Ils sont les conséquences directes des politiques migratoires sciemment mises en place par les pouvoirs publics français et britanniques pour rendre la vie des exilés sur le littoral nord impossible. En effet, depuis 2021, les gouvernements français et britanniques se sont engagés dans un coûteux projet de militarisation de la frontière qui n'a fait qu'exacerber la souffrance, rendre toujours plus précaire la vie des personnes exilées, ainsi qu'augmenter les risques et la dangerosité des traversées au lieu d'ouvrir des voies de passage légales et sûres entre les pays. Chaque nouvelle mesure répressive ne fait qu'aggraver la situation. La politique de démantèlement systématique des lieux de vie à l'œuvre sur le littoral nord n'a pour seule conséquence que d'augmenter la précarité et la vulnérabilité des personnes qui vivent dans les camps. Casal, par exemple, qui a perdu la vie avec ses 3 enfants le 24 novembre 2021, avait été expulsé par la police du camp de Grande-Synthe la semaine précédente, le drame. Parallèlement, la multiplication des obstacles au passage a pour corollaire d'augmenter la dangerosité des traversées et de rendre le business des passeurs toujours plus lucratif. Ces politiques n'empêchent pas les migrations. Elles forcent simplement les personnes à emprunter des routes toujours plus dangereuses et mortelles. Mais jusqu'où devront-elles aller et participer à l'enrichissement des réseaux de passeurs ? Quand cela va-t-il cesser ? À cela s'ajoute une autre injustice. 3 ans après le naufrage du 24 novembre 2021, aucune enquête sérieuse n'a abouti. Certaines, promises, n'ont même pas été conduites, tandis que d'autres ont été entravées ou obstruées. Il n'y a eu ni responsabilité clarifiée, ni vérité révélée. Cette inaction est un outrage aux familles des victimes et une négation de la dignité humaine. La justice doit être rendue pour que ces personnes ne soient pas seulement connues comme des chiffres, mais bel et bien reconnues comme des êtres humains dont la mémoire mérite le respect. Nous, organisations humanitaires et de protection des droits humains, associations et citoyens, nous refusons l'indifférence et nous réclamons justice pour les disparus, dignité pour les vivants et l'accès aux voies légales et sûres pour mettre fin à ces tragédies. Ces drames ne peuvent continuer de s'accumuler sans que soit questionnée la militarisation de cette frontière via une surenchère de dispositifs de répression. Kilomètres de barrières, barbelés, drones, multiples patrouilles de police, avions Frontex, etc. ayant pour conséquence d'accroître les risques auxquels expose son franchissement. Nous soutenons les actions menées par les proches et les familles des victimes de ces tragédies devant les tribunaux, afin que la liberté éclate sur le déroulement exact de cette nuit meurtrière et que soient identifiés tous les responsables et que la justice soit faite. Nous exigeons une réforme profonde et urgente des politiques migratoires, fondée sur le principe d'humanité et le respect du droit international, en particulier l'obligation de porter secours aux passagers d'un bateau en difficulté et de débarquer les personnes dans un lieu sûr, dans les meilleurs délais. Donc, les signataires, il y a la présidente d'Amnesty International France, il y a la secrétaire générale de la CIMAD, je ne dis pas tous les noms, hein. Il y a le président de Médecins du Monde, il y a le responsable de la mission France de Médecins Sans Frontières, il y a le cofondateur d'Utopia 56, il y a le président de l'Auberge des Migrants, il y a Carcat Calais, il y a le collectif Aide, il y a le président d'Emmaüs France, il y a l'administratrice de la maison Sésame, il y a le président du comité local d'Incarquois du MRAP, la coordinatrice plaidoyer Project Play, la présidente Refuge Women Center et la directrice France de Safe Passage International. Il y a un membre du CA de Terre d'Errance et il y a la responsable terrain Human Rights Observers. Voilà. Donc ça, c'est les signataires de cette chronique que Amnesty a signée donc en collaboration avec d'autres. Et c'est vrai qu'il y a des riverains qui observent de plus en plus des gens qui se regroupent sur les plages avec des bateaux. Et des fois, ils arrivent à les dissuader d'y aller parce que c'est hyper dangereux. Mais c'est de plus en plus souvent et il y a de plus en plus de gens qui sont témoins. De ces tentatives de traverser.
Oui, tout à fait. Et donc, effectivement, et ce qui m'a frappé, moi, effectivement, c'est la reprise des propos de notre actuel ministre de l'Intérieur, et qui sont qualifiés de scandaleux dans ce communiqué, mais scandaleux, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc,
allez Didier, tu...
Donc on revient à notre campagne Changer leur vie. Donc, voilà,
de on en a déjà présenté 3.
Donc voilà. En nous présentons les 3 autres personnes.
C'est ça, les 3 autres personnes ou les 3 autres mobilisations pour défendre leurs droits. Donc la personne suivante, il s'agit de Joël Parades en Argentine qui a été éborgné par un tir de balle en caoutchouc dans une manifestation politique pacifique. Ça me rappelle ce qui s'est passé en France au moment des Gilets jaunes. Joël Parades est un céramiste et musicien de 29 ans qui vit dans la province de Jujuy, en Argentine. Le 30 juin 2023, il a participé à une manifestation pour protester contre une réforme de la constitution provinciale qui inclut notamment des restrictions du droit de manifester et des mesures susceptibles de nuire à l'environnement et aux droits fonciers des peuples autochtones. Ça fait référence aussi à ce que Edith vous a dit tout à l'heure au Canada. La police a tiré des balles en caoutchouc sur les manifestants, blessant Joël. Il a définitivement perdu la vue de l'œil droit et souffre également de douleurs névralgiques invalidantes. Donc Amnesty International demande justice pour Joël Paredes auprès du procureur général de Jujuy, ou Rouy, je ne sais pas comment on prononce, en identifiant et traduisant en justice les responsables de ses blessures. Voilà. Et le cas suivant, c'est en
La personne
Corée
suivante
du Sud.
Est, voilà. vit en Corée du Sud et défend les droits des personnes en situation de handicap. Donc c'est Kwing Seok Park, je suis désolée, je prononce peut-être très mal, donc qui est un Coréen et qui est militant pour les droits des personnes handicapées. Il organise des manifestations pacifiques pour attirer l'attention du public sur les lacunes du réseau de transport en commun de Séoul en matière d'accessibilité et notamment sur les difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap pour accéder au train et au métro en toute sécurité. On ne peut pas dire que ça met en péril la sécurité de l'État
coréen.
Et en plus de les empêcher de participer pleinement à la vie publique et de vivre de manière autonome ces manquements, ont déjà provoqué des accidents mortels à cause d'équipements non sécurisés. Le militantisme de Kyung Seok Park s'est heurté à des violences policières, à des campagnes publiques de diffamation et à des poursuites judiciaires. Amnesty International demande au maire de Séoul de mettre un terme au recours à la force illégale, aux poursuites judiciaires et aux campagnes de diffamation à l'encontre de Kyung Seok Park et des autres militants des droits des personnes handicapées en Corée. Voilà.
Donc moi, je vais aller au Vietnam et parler aussi d'un défenseur écologique, un défenseur de l'environnement. Donc c'est Dan Dinh Bar. Connu sous le nom de Bar, je prononce, voilà, Bar, on ne sait pas trop, ou Bac, on va dire Bac, ça va changer.
Comment, tu ne parles pas bien couramment vietnamien ?
Pas tout à fait. Est un éminent avocat spécialisé en justice environnementale au Vietnam. Il a consacré sa vie à la lutte en faveur du droit à la santé et du bien-être des communautés marginalisées souffrant de l'activité des centrales thermiques au charbon. Il a fondé une ONG qui leur offre un soutien juridique et forme des jeunes avocats et avocates dans le cadre de consensus liés à l'environnement et à la pollution. En 2021, il mène une action avec l'Action vietnamienne pour l'énergie durable pour dénoncer la forte dépendance au charbon du Vietnam. Il est arrêté le 24 juin 2021 alors que son fils n'avait que 5 jours. Accusé d'évasion fiscale, c'est carrément une accusation très facile pour arrêter des gens qui ne plaisent pas. Il est condamné à 5 ans de prison en janvier 2022 après un procès à huis clos considéré comme inéquitable. La défense n'a pas pu du tout présenter ses arguments. Depuis, il n'a pas revu sa famille et subit de mauvais traitements en prison et sa santé s'est grandement dégradée. Donc Amnesty demande la libération immédiate, sans condition de Dan Dinh Bar, et sa protection d'ici là contre toute forme de torture et de mauvais traitements.
Voilà, donc c'était les trois cas suivants, les trois personnes suivantes, je sais.
On a du mal. Je pense qu'on va avoir beaucoup de sous dans notre petite cagnotte.
il va nous mettre un euro à chaque fois qu'il dit cas au lieu de dire personne.
Pour l'instant, on a déjà pas mal.
Attention.
Mais on parle de la même chose. On passe la deuxième pause musicale, on se retrouve juste après.
J'ai deux bracelets d'acier qui entravent mes bras. Le bruit des bottes qui résonne, mon père a connu ça. Frapper à des portes en fer qui ne s'ouvrent pas. Parler à des gens trop fiers qui ne me voient pas. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, barbelé, aux frontières. Capitale douceur Paris, je dormais dans tes bras, capitale violon aussi, je ne te reconnais pas. Toi Paris, ma beauté fatale, symbole de la France, je me suis fait casser normal par ton indifférence. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, exilé, volontaire. Le bas de novembre encore pose ses mains sur moi. Bout de fer et de cendre, la mort, je n'aime pas ce mois-là. La liste des droits de l'homme, la mélancolie, juste un homme parmi les hommes, tout seul dans Paris. Plus rester, plus partir, plus rêver, on finit naufragé, solitaire, exilé, volontaire.
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite et la fin de son émission pour la promotion et la défense des droits humains. On vient d'entendre un morceau qu'on vous avait déjà passé, mais enfin de Bernard Lavilliers, qui s'appelle,
on s'en lasse pas,
qui s'appelle L'Exilé, et qui parle de ces gens qui sont obligés de quitter leur pays, et ça fait référence à ce que Clarlise vous a dit tout à l'heure sur les migrants qui meurent dans la Manche. Voilà. Donc, retour à notre campagne Changer leur histoire, et c'est Clarlise qui va vous parler de la situation ou de la personne suivante.
Oui, je vais vous parler de Maria Kalesnikava. Donc, c'est une femme qui vit au Bélarus et qui, c'est une femme politique, musicienne, directrice artistique du Bélarus et reconnue comme prisonnière de conscience par Amnesty International. Donc, figure de l'opposition au gouvernement actuel du Bélarus, elle a été arrêtée arbitrairement en septembre 2020, est poursuivie en justice sur la base d'accusations telles que atteinte à la sécurité nationale et extrémisme, forgée de toutes pièces. Donc, elle est actuellement détenue en prison au Bélarus où elle purge une peine de 11 ans pour avoir protesté contre les violations des droits humains, les arrestations et les poursuites arbitraires, les abus du processus électoral et l'élection présidentielle largement contestée de 2020. Son état de santé s'est gravement détérioré en détention. Et donc, Amnesty International appelle à la libération immédiate et sans condition de Maria Kalesnikava et demande que sa détention se fasse jusque-là dans des conditions conformes aux normes internationales. Voilà.
Et donc, c'est moi qui vais vous parler de la personne suivante, qui s'appelle Ogba Achad et qui est égyptien. Il est incarcéré et torturé en raison du militantisme de son frère. Ogba Achad, étudiant de 27 ans, amputé d'une jambe, est maintenu en détention provisoire depuis mai 2019, uniquement en représailles au militantisme de son frère en faveur des droits humains, actuellement en exil. Les autorités égyptiennes ont soumis Ogba à une disparition forcée et à la torture, en lui refusant la prothèse de jambe qu'il utilise depuis un accident survenu dans son enfance. Il est détenu dans des conditions déplorables, sans accès à des soins de santé adéquats. En février 2024, alors qu'un juge ordonne sa libération, de nouvelles poursuites sont lancées contre lui pour justifier son maintien en détention. Amnesty International appelle à la libération immédiate et sans condition d'Ogba Achad, et dans l'attente de sa libération, à une détention dans des conditions conformes aux normes internationales et à un accès aux soins médicaux nécessaires. Donc ça fait référence aussi à ce qu'on vous disait tout à l'heure, l'absence de soins utilisée comme forme de torture par de nombreux pays. Voilà, et je crois que c'est Edith qui voulait vous parler de la dernière personne.
Voilà, donc là nous allons en Turquie et nous allons parler de Sebnet Korur Finkansi, qui est déclaré coupable pour avoir défendu les droits fondamentaux. Alors moi j'avais lu un petit peu plus d'infos sur cette personne, donc j'ai envie de partager avec vous, donc un petit peu plus long que ce que mes amis ont fait. Donc Sebnet, elle a aidé des milliers de personnes dans son pays, la Turquie, et à travers le monde en plaidant pour l'éradication de la torture. Dans son pays, c'est une amatrice de musique classique, une amoureuse des chats qui aime cuisiner et écouter du Beethoven. Mais pour le monde, c'est un médecin légiste internationalement reconnu, célèbre pour son travail, effectivement, donc en faveur de l'éradication de la torture. Elle s'est toujours battue pour protéger les droits humains. Elle a travaillé avec l'ONU, avec l'Organisation mondiale de la santé et préside l'Union des médecins en Turquie. Depuis plusieurs années, cependant, les autorités turques la prennent sans cesse pour cible. Sebnet fait ainsi constamment l'objet de harcèlement, d'enquêtes pénales infondées, de placements en détention et d'accusations de la part des autorités turques. Après avoir appelé à une enquête sur les possibles utilisations d'armes chimiques par l'armée turque en Irak, elle a été condamnée en janvier 2023 pour « propagande en faveur d'une organisation terroriste ». Sebnet a fait appel, mais elle risque une peine de prison si sa condamnation est confirmée, uniquement pour avoir exprimé ses inquiétudes en tant qu'experte. Le gouvernement turc ne cesse de réprimer la liberté d'expression en limitant le travail essentiel en faveur des droits humains des personnes comme Sebnet. Mais rien ne découragera cette dernière. Elle a besoin de nous pour pouvoir signer la pétition et Amnesty demande que la justice pénale ne soit pas utilisée pour harceler Sebnet Korur Finkansi et à ce qu'aucune nouvelle accusation ne soit portée contre elle en raison de son travail de défenseuse des droits humains.
Voilà, ben merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc cette campagne, elle démarre ces jours-ci. Hein, donc voilà. Et on peut déjà signer les pétitions en ligne sur le site.
Oui, mais nous, on va les présenter à Évreux.
On va
oui.
les présenter à Évreux, effectivement. Donc on n'a pas encore tout à fait les dates, mais ça ne saurait tarder.
On choisit les jours où il fait bien froid.
Où il y a les jours où vous avez envie de sortir. On va aller voir des endroits un peu festifs. Hein. Je pense qu'on peut
donc
dire.
On sera présent au magasin à Biocop, comme depuis plusieurs années. Et on sera présent également lors du marché de Noël, ouais. à la brasserie Sport.
Donc on pense que c'est Gravigny. Le 21 décembre.
Le marché de Noël, vous l'aurez sur le 21 décembre. Pour Biocop, on n'a pas encore la confirmation de la date, mais ça ne saurait tarder. Donc si vous voulez toutes les informations, vous allez sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, Amnesty International Évreux, avec un accent aigu sur Évreux, et sur notre page Instagram qui s'appelle amnesty.évreux. Voilà, donc n'hésitez pas, vous aurez toutes les informations dès que tout ça nous sera confirmé, ce qui serait tardé maintenant. Et donc venez signer effectivement et nous rencontrer et discuter avec nous de toutes nos actions au-delà de cette campagne très importante qui s'appelle Changer leur histoire, mais de venir vous renseigner aussi sur tout ce que fait Amnesty International.
Toute l'actualité. Alors je pense que tu vas nous en parler, Didier, parce que l'actualité est quand même très...
Allez, à deux pieds joints.
Il y a un événement important. Donc effectivement, qui est le mandat d'arrêt qui a été lancé par la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou, son ex-ministre de la Défense et un chef du Hamas. Benjamin Netanyahou, pour ceux qui ne savent pas, c'est le premier ministre israélien. Donc la Cour pénale internationale a émis officiellement des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien, Netanyahou, et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza occupée. Un mandat d'arrêt a également été émis contre le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Delf, pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis à partir du 7 octobre 2023. Alors la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, a déclaré la chose suivante. Il s'agit d'une décision majeure qui rappelle que personne n'est au-dessus du droit international, qui doit être désormais appliqué. Les mandats d'arrêt délivrés par la Cour pénale internationale le 21 novembre 2024 représentent une avancée historique pour la justice. les rouages de la justice internationale ont enfin rattrapé les responsables présumés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en Palestine et en Israël. Personne n'est au-dessus des lois, ni les responsables gouvernementaux, élus ou pas, ni les leaders des groupes armés. Personne n'est au-dessus des lois. Benjamin Netanyahou est désormais officiellement un homme recherché. À la suite de son inculpation, ainsi que de celle de Yoav Gallant et de Mohamed al-Nasri, les États membres de la Cour pénale internationale et l'ensemble de la communauté internationale doivent tout mettre en œuvre pour que ces personnes soient jugées. Il ne peut y avoir de refuge pour les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En délivrant ces mandats d'arrêt, la Cour pénale internationale porte enfin un réel espoir de justice à d'innombrables victimes de crimes relevant du droit international et rétablit la confiance dans la valeur universelle des instruments juridiques internationaux et de la justice. Il appartient désormais aux 124 États membres de la Cour pénale internationale, dont la France, de décider d'exécuter les mandats d'arrêt si Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant ou Mohamed Delf se rendent sur leur territoire. Alors je vais faire un petit commentaire qui n'est pas dans le communiqué, mais c'est que j'ai entendu hier aux infos sur je ne sais plus quel média, mais qui interrogeait notre ministre actuel des Affaires étrangères suite à cette déclaration de la CPI. Si jamais effectivement Benjamin Netanyahou
venait en France
ou une des deux autres personnes venait en France, quelle serait la réaction de la France qui s'est donc engagée auprès de la CPI à, dans ces cas-là, mettre ces personnes-là aux arrêts? Le ministre a refusé de répondre.
Alors, ce qui a été dit aussi sur les antennes, c'est que le président Orban, a invité Netanyahou à une visite officielle dans son pays où il sera en toute impunité, en toute liberté. Il faut dire aussi qu'il y a quand même des pays dans le monde qui remettent en cause les observations de l'ONU, qui remettent en cause les arrêtés internationaux et la Cour pénale internationale, qui remettent en cause les droits humains en toute... ils sont très décomplexés, comme les youtubeurs américains. Oui, oui. Et c'est de plus en plus... et là, parce que Poutine aussi, il a
Oui, c'est ce que je voulais signaler. Poutine aussi a le même.
Et il continue à se balader. Enfin, il se balade pas trop.
Non, il est allé en Corée.
Il se balade pas trop.
Enfin, il est quand même. J'ai appris récemment qu'il était allé en Népal. Au Népal, qui est à l'invitation de la Chine, rencontré je ne sais plus qui, bref, peu importe, et qui est un État qui a signé le statut de la Cour pénale internationale, et le Népal s'est bien abstenu de faire quoi que ce soit pour le mettre aux arrêts. Voilà. Donc les États, et la France en fait partie, ou très probablement, vu l'absence de réaction des officiels, fait partie de ces États qui signent les traités internationaux, mais quand c'est un peu compliqué à les mettre en œuvre, ne le font pas. Voilà, donc la signature, à quoi ça les engage?
Ce que dit Clarisse, c'est qu'il y a ce sentiment d'impunité et de force de certains États beaucoup plus, on va dire... comment on dit là quand on est antidémocratique, mais on n'est pas vraiment démocratique, il y a un mot pour...
Je ne sais pas, là tu me poses
une colle. Si, Orban, il est...
Illibéral.
Et qui sont illibérales, voire plus, et qui se donnent la main pour être plus forts. Et c'est sur ça qu'il faut, nous, se battre et porter nos libertés et nos valeurs vraiment fort et très haut.
Tout à fait. Bon, c'est quand même comme dit le communiqué d'Amnesty. Bon, je vous ai pas tout lu. Hein. Vous le trouvez sur la page de.
Oui, mais les communiqués, c'est bon, mais il faut que chacun se bouge, Didier. Oui. C'est ça aussi.
Non, mais tout à fait. Enfin, si vous voulez le lire en entier, il est sur la page d'Amnesty, amnesty.fr. Donc, n'hésitez pas. Et ce qui est rappelé effectivement par Amnesty, c'est que ce genre de mandat d'arrestation, d'inculpation lancé par la Cour pénale internationale, c'est très important pour défendre les droits des victimes.
C'est montré. C'est déjà quelque chose qui se montre et que dans ce climat très, très compliqué dont venait parler Clarisse.
Voilà, n'oublions pas qu'il y a des milliers de Palestiniens, hommes, femmes et enfants, qui sont morts déjà dans la bande de Gaza depuis
plus d'un an. Il y a quelques Libanais là. Hein.
Quelques Libanais, effectivement, et quelques milliers de Libanais aussi. Et alors, je vais juste faire un commentaire qui n'est pas dans le communiqué, mais qui est important. et que surtout, on, par rapport aux gens qui sont, qui, que ça fait un peu sourire, cette mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, et qui vont dire « Ah, c'est encore effectivement de l'ordre de l'antisémitisme, c'est absolument insupportable ce genre de commentaire, c'est pas du tout par rapport à sa religion juive qu'a émis ce mandat contre Netanyahou, mais contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui sont commis par le gouvernement israélien. Il ne faut pas tout mélanger. Ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Qu'il soit juif ou n'importe quelle autre religion, ça n'aurait strictement rien changé. » Voilà.
Allez,
c'était
un
pour
petit
préciser
peu
les choses. Alors, information locale, et puis il va être l'heure de rendre l'antenne. Donc, nous, on se retrouve pour notre prochaine émission le mardi 17
Respire,
décembre.
Respire, attends encore 5 minutes.
Le mardi 17 décembre, donc pour notre prochaine émission à 19h en direct sur l'antenne de Principe Actif. Donc n'hésitez
on
pas.
On sera en vrai, en live.
Voilà. N'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux, comme on vous l'a dit, pour voir les dates où on sera présent pour faire signer pour ces pétitions, donc dans le cadre de la campagne Changer leur histoire. Et également une autre information locale, dans le cadre du film de l'éducation qui a lieu. Le festival du film de l'éducation, je crois que c'est ça, qui a lieu au c'est cinéma là, dans les semaines qui viennent. Le mercredi 4. Alors les projections sont gratuites, mais il faut vous inscrire avant. Le mercredi 4 décembre, de 14h à 16h, ont lieu la projection de plusieurs films, et dont des films qui ont été réalisés par des jeunes de l'antenne de Montmartre à Paris, de l'antenne de Montmartre d'Amnesty International. Donc nous, on y sera. On n'a pas vu ces films, mais on pense qu'ils sont...
On est invités.
On est invités.
On va aller les voir.
On peut que vous encourager à aller assister à ces films, et donc même à d'autres films, parce que le festival du film de l'éducation, c'est toujours un événement intéressant.
Des films et des courts-métrages très, très intéressants.
Voilà. Donc il a lieu la semaine du 4 décembre.
Du 3 au 7, je crois, de mémoire.
Et pour revenir à notre filouterie de date, puisque donc du coup on enregistre le 25 mais vous écoutez le 26, on est au théâtre vas-y dis-nous Didier.
Ça, c'est une pièce qui s'appelle « Longtemps je me suis levé tôt ». Voilà, c'est un petit clin d'œil, hein. C'est sur le droit au travail, c'est tiré l'histoire réelle d'ouvrières qui avaient été licenciées dans une...
Il y a tout un article dans les journaux locaux.
Voilà, tout à fait. Et donc, il y a aussi, vous pouvez aussi aller sur le site du Tangram, il y a des informations avec les références à Amnesty, puisqu'on sera présent, nous, demain, enfin demain.
Non,
ce soir, au théâtre. Et donc, voilà. Et le titre de la
donc
pièce...
Donc, on aura une table de presse et vous pouvez nous venir nous c'est voir à la sortie de la pièce.
Vous ne le savez pas encore, mais on va vous rencontrer.
C'est ça.
Et donc, tout à l'heure.
Et donc, vous pouvez signer aussi les pétitions pour les 10 jours pour signer, avec ce 10 jours pour signer, changer leur histoire. Voilà. Et donc, ce titre de la pièce, c'est ça que je voulais dire, « Longtemps je me suis levé tôt », ça fait référence à une phrase d'un ancien président de la République qui avait dit qu'en fait, les gens qui voulaient travailler, ils le pouvaient, et que les courageux, c'était ceux qui se levaient tôt. Voilà. Donc c'est sur le droit au travail et le droit à un travail digne. Voilà. Donc on va laisser l'antenne, parce que ça va être l'heure tout de suite au laboratoire. Et nous, on se retrouve donc le mardi, je ne vais pas me tromper, 17 décembre sur l'antenne de Principe Actif.
Alors bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir et à bientôt à tout le monde.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.